Radio Kapi.
Les informations, Blaise Shindani Kambala.
Bonjour à tous. Au sommaire de ce journal, les FARDC se redéploient dans plusieurs localités du Sud Kivu après le retrait sans combat de l'FC M23. Les forces de défense de la République démocratique du Congo dénoncent par ailleurs des actes de pillage à Sangé avant le retrait de cette rébellion. Nous parlerons aussi dans ce journal de ce coup de maître réalisé par les services de sécurité dans les Tanganyika. Ils ont saisi un important lot de chanvre dans la commune Lukuga à Kalemi. D'après le bourgmestre de la commune, ce produit illégal appartenait à un artiste musicien du coin. Les FARDC se sont redéployés ce mardi 12 mai dans la localité de Luvungi en territoire d'Uvira. Cela après le retrait de l'FC M23. Ce retrait progressif de l'FC M23 était au centre du débat entre les intervenants dans l'émission Dialogue entre Congolais d'hier mardi. Vous les suivrez tour à tour au micro de Guy Matetsongo. Mesdames et messieurs, voilà tout pour les titres. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition du journal sur la radio de la paix. C'est confirmé, les FARDC se sont redéployés hier mardi dans la localité de Luvungi, en territoire d'Uvira, au sud Kivu. Cela après le retrait sans combat de cette entité par les éléments de l'FC M23. La veille, l'armée s'était également redéployée dans plusieurs localités abandonnées par la rébellion le long de la route nationale numéro 5, notamment à Kabumnambo, Sangé, Nyakabere, Mutarule, Luberizi et Bouegera. Les FARDC dénoncent par ailleurs des actes de pillage à Sangé avant le retrait de l'AFC M23. Confirmation avec le lieutenant Rigen Mbui Kalonji, porte-parole des opérations Sokola 2 Sud des FARDC au Sud Kivu. Il est au téléphone de Martial Papi Mukeba.
Les forces armées de la République démocratique du Congo ont fait leur entrée ce mardi 12 mai 2026 en début de l'après-midi dans l'agglomération de Luvungi. C'est juste après les retraits des troupes rwandaises et de leurs supplétifs M23, Tuwaneo et Red Tabara qui occupaient jadis cette entité depuis plusieurs mois. Les habitants espèrent désormais un retour progressif de la sécurité et des activités bien sûr socio-économiques dans cette partie de la plaine de la Ruzizi. Ces retraits résultent non seulement des efforts militaires, mais également plus des efforts diplomatiques menés par les commandants suprêmes des FARDC et de la police nationale congolaise et son excellence Félix Antoine Tshisekedi, que plusieurs localités retrouvent progressivement le contrôle des forces loyalistes. Les rebelles du M23 avec leurs alliés Tuwaneo et Tabara ont, avant leur retrait, pillé, saccagé, vandalisé le bien de la population. Et nous avons reçu des plaintes de la population ici à Luvungi.
À l'ouest du pays, une patrouille de reconnaissance non loin de Kinshasa, précisément sur le tronçon qui quitte Pont Luangé dans la province du Kwilu. C'est la 11e région militaire qui a été effectuée cette ronde lundi dans le cadre de la sécurisation des usagers de la route nationale numéro 1. Selon le capitaine Anthony Mwalouchai, porte-parole de cette zone, l'opération consiste à évaluer les réalités sécuritaires auxquelles sont confrontés les usagers. Il l'est dit au micro de Vanessa Kongolo.
Au cours de cette mission de 205 km, plusieurs témoignages préoccupants nous ont été rapportés, notamment des cas de pillage, des violences et même d'actes inhumains observés après certains accidents de circulation. Des individus profitent de ces situations dramatiques pour voler des marchandises, incendier de véhicules accidentés et parfois mettre en danger la vie des victimes au lieu de leur porter assistance. Face à cette réalité, l'armée ne peut pas agir seule. La sécurisation durable de la RNE nécessite l'implication de tous, notamment autorités locales, leaders communautaires, services de sécurité et populations riveraines, bien sûr. C'est dans cette logique que nous envisageons de lancer une vaste campagne de sensibilisation à travers le média local et les structures communautaires afin de combattre, n'est-ce pas, le phénomène des coupeurs de route et des kulunas qui perturbent la paix sociale et la libre circulation de personnes et de leurs biens. Notre objectif est clair, restaurer un climat de confiance sur cet axe stratégique qui constitue un corridor économique vital pour notre pays.
Et puis ces chiffres inquiétants, 245 enfants ont disparu l'année dernière dans la seule province de l'Ituri. Chiffre alarmant révélé hier mardi à Bunia par l'Organisation internationale pour les migrations OIM. C'était lors de la présentation du rapport sur la traite d'êtres humains et le trafic illicite des migrants. Activité organisée à l'intention des différentes couches sociales avec l'appui financier de l'Union européenne à travers le projet Borderland. Selon les experts, le trafic d'enfants est facilité entre autres par de nombreuses pistes clandestines reliant la RDC à l'Ouganda. Le point avec Jean-Claude Lokidile.
Les victimes sont exploitées dans les sites miniers, la servitude domestique ou encore les réseaux d'exploitation sexuelle. Pour fils Lien Eli Tello de l'OIM, les enfants déplacés par les conflits armés restent les plus exposés.
Beaucoup de ces enfants-là, ce sont des enfants issus de familles en situation de vulnérabilité. Ce sont aussi des enfants qui proviennent de familles qui ont fui les conflits armés, les guerres dans leur village, qui se retrouvent au niveau des camps de déplacés. Donc cette vulnérabilité-là, en raison de la pauvreté, en raison des conflits armés, il faudra que les autorités interviennent pour assurer une meilleure protection des enfants dans la province de l'Ituri.
À travers le projet Borderland, l'OIM et ses partenaires prévoient des campagnes de sensibilisation, d'assistance aux victimes ainsi qu'un appui aux poursuites judiciaires contre les trafiquants d'êtres humains. Ce programme régional RDC Ouganda, doté d'une enveloppe de 15 millions d'euros sur 3 ans, comprend également des volets de santé mentale, de modernisation des postes frontaliers et de renforcement des capacités des autorités locales autour du lac Albert. Bounia, Jean-Claude Lokidile, Radio Kapi.
Coup de maître réalisé par les services de sécurité dans le Tanganyika. Cela saisit d'un important lot de chanvre dans la commune Lukuga à Kalemi. D'après le bourgmestre de la commune, ce produit illégal appartenait à un artiste musicien du coin. Zedine Tamboa précise encore que cette action s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la criminalité dans sa municipalité. Reportage Paul Munanga.
Les chanvres en provenance du territoire de Nyunzu étaient emballés dans plusieurs sacs, explique le bourgmestre de la commune Lukuga. Les services de sécurité ont appréhendé la cargaison au moment où elle était en train d'être déchargée du véhicule. L'autorité communale souligne que cette opération vise à lutter contre la criminalité qui est en hausse ces derniers temps dans la ville de Kalemi. D'après Zedine Tamboa, la criminalité est favorisée notamment par le trafic et la consommation du chanvre par des jeunes qui fréquentent souvent des maisons de tolérance, des débits de boissons et d'autres milieux malfamés. D'après le bourgmestre de la commune Lukuga, la consommation du chanvre dans sa municipalité est interdite et favorise la délinquance juvénile, les vols et d'autres comportements malsains chez les jeunes. Les habitants de la commune Lukuga saluent ces gestes des autorités et les encouragent à faire plus pour protéger les jeunes dont certains s'adonnent à la consommation de la drogue. Lubumbashi, Paul Munanga, Radio Okapi.
Pendant ces temps de dizaines de jeunes ont opté pour l'éclosion de leur savoir à Bunia. Ils ont bénéficié d'une formation professionnelle dans différents métiers assurés par les contingents bengladais de la MONUSCO. Selon les chefs de division provinciale de la jeunesse, cette initiative clôturée la semaine dernière vise à promouvoir l'autonomisation des jeunes et aussi à contribuer au processus de paix en Ituri en les éloignant des groupes armés. Reportage d'Isaac Remoyopi.
Plusieurs jeunes dont des filles ont été formées en informatique, notamment sur les logiciels Word, Excel et Photoshop, ainsi qu'en anglais. D'autres jeunes, principalement des garçons, ont été formés à la réparation et à la maintenance des groupes électrogènes électriques, une compétence qu'ils jugent essentielle pour leur avenir, car elle leur permettra de gagner leur vie tout en se rendant utile à la société.
J'ai été satisfait et un plus. Ça nous a renforcé nos capacités sur la réparation et la maintenance et les petits travaux sur les générateurs électriques.
Les chefs de division provinciale de la jeunesse affirment que cette initiative des casques bleus de la MONUSCO contribue non seulement à réduire le chômage des jeunes, mais également à soutenir les processus de paix en Ituri où de nombreux jeunes rejoignent les groupes armés faute de perspectives et des moyens de subsistance. Jean Bosco Ouzélé.
Le contingent bangladais est en train de capaciter nos jeunes afin qu'ils deviennent utiles à la société, afin qu'ils arrivent à créer leur propre emploi. Ils oublient le chemin qui mène vers la rébellion.
Grâce aux différentes formations professionnelles en électricité, plomberie, pâtisserie, carrosserie, mécanique et autres métiers techniques, des centaines de jeunes se sont déjà lancés dans l'entrepreneuriat dans la ville de Bounia. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Kapi.
Place à cette vive inquiétude de la population du territoire de Banalia, situé à 128 km au nord de Kisangani. Cette contrée est coupée en deux depuis lundi matin. À la base, le chavirement du bac qui leur permettait de traverser les rives de la rivière Arouimi. Conséquence, le trafic automobile est totalement interrompu. Jacques Moukonkole nous fait le point.
Sur les deux rives de la rivière Arouimi, le décor est le même. De longues files de véhicules immobilisés. Ce blocage paralyse une artère économique vitale pour la région. Parmi les engins en détresse, des camions-citernes transportant du carburant destinés au village Mangui, mais aussi de nombreux transporteurs chargés des produits manufacturés. Pour ces commerçants, chaque heure d'attente supplémentaire représente une perte financière sèche. Le chavirement de cet outil de traversée, bien que prévisible pour certains usagers, met en lumière la fragilité des infrastructures dans ce territoire. Face à cette paralysie, l'administrateur de territoire de Banalia ne cache pas sa préoccupation. Il plaide urgemment pour l'achèvement des travaux de construction du nouveau bac par l'Office des routes. Les travaux sont à l'arrêt depuis plusieurs mois, faute de financement selon la société civile locale. En attendant une solution technique immédiate pour dégager le passage, la traversée ne se fait plus que par pirogue pour les passagers les plus téméraires. Mais pour les gros porteurs, le voyage s'arrête ici. Au bord de l'Arouimi, laissant planer le spectre d'une pénurie de produits de première nécessité dans les localités environnantes. Jacques Moukonkole, Kisangani, Radio Kapi.
383 infirmiers prêtent serment en Bandaka. C'était hier mardi en présence de Thomas Boyenge Ifaso, gouverneur intérimaire de province de l'Équateur. Cette activité a été organisée hier 12 mai à l'occasion de la Journée internationale des infirmières. Des détails avec Askin Zigbatayoro.
C'est dans le beau cadre de l'amphithéâtre de l'ISP Mbandaka que ces nouveaux infirmiers ont prêté leur serment. Ces nouveaux professionnels en blouse blanche viennent de sept territoires de la province de l'Équateur, notamment Bikoro, Ingende, Lukolela, Bolomba, Bassankoussou, Bomongo, Makanza, y compris la ville de Mbandaka. Les nouveaux infirmiers, désormais sur le marché de l'emploi, se sont engagés à exercer dans le respect de l'éthique et de la déontologie de la profession infirmière. Ils vont devoir dispenser des soins médicaux de qualité et soulager les souffrances des patients dans la formation médicale en phase avec le programme national de couverture sanitaire universelle. Les 383 infirmiers s'ajoutent au tableau de l'ordre des infirmiers de la RDC. Selon Jean-Claude Mogobela, président provincial de l'ordre des infirmiers de l'Équateur, la division provinciale de la santé compte désormais 1910 infirmiers inscrits à ce tableau de l'ordre des infirmiers. Cette personnalité sanitaire a profité de l'occasion pour demander au gouvernement central d'améliorer les conditions socio professionnels et la rémunération des infirmiers en République démocratique du Congo.
Restons dans cette ambiance du 12 mai pour vous signaler que cette journée a aussi été célébrée à Beni, dans le Nord Kivu. Les professionnels de la santé ont ainsi recommandé au gouvernement une meilleure prise en charge des infirmiers. L'un d'eux, Alex Biango, directeur de nursing à la clinique Dieu est Grand de Beni, s'exprime au micro de Marc Marofimbo.
Ça fait bientôt 25 ans que je suis dans les métiers, mais je ne suis pas reconnu par l'État congolais. Donc pour dire que l'État congolais ne reconnaît pas presque les infirmiers du Congo. Alors nous recommandons à notre État de reconnaître notre corporation, qu'ils intègrent la corporation infirmière dans leur budget, que les infirmières aussi commencent à toucher de leur salaire d'État. C'est un métier avec exigence parce que c'est un métier qui est en contact avec le corps humain. Pour les autres infirmiers, je vais leur demander de prendre du courage, malgré le salaire qui n'est pas reconnu par l'État, mais qu'ils aient le courage, comme Florence Nightingale nous a dit, que nous sommes là pour sauver des vies. Nous ne sommes pas là pour l'argent. C'est vrai que l'argent fait le bonheur ou bien fait la vie, mais nous sommes là pour sauver la vie. Nous ne sommes pas là pour être derrière l'argent. Nous ne devons pas courir derrière l'argent pour que nous puissions sauver la vie. Sauvons d'abord la vie et l'argent viendra après.
Actualité internationale.
Au Gabon, la présidence affirme n'être pour rien dans l'arrestation du principal opposant Alain-Claude Billy Binzé et déclare même que les portes du palais lui seront ouvertes le jour où il sera libéré. Le 15 avril, l'ancien premier ministre Billy Binzé a été arrêté pour une affaire présumée d'escroquerie qui remonte à 2008. Après-demain, vendredi 15 mai, la justice doit se prononcer pour ou contre sa remise en liberté.
L'invité.
Les FARDC se sont redéployés ce mardi 12 mai dans la localité de Luvungi en territoire d'Uvira. Cela après le retrait de l'FC M23. C'est depuis samedi 9 mai que les rebelles de l'FC M23 ont entamé un retrait progressif de certaines positions dans la plaine de la Ruzizi au sud Kivu. Ce retrait progressif de l'FC M23 était au centre du débat entre les intervenants dans l'émission Dialogue entre Congolais d'hier mardi. On les écoute au micro de Guy Maté Tsongo.
Didier Kabi, vous êtes ministre de la communication et porte-parole du gouvernement provincial du Sud Kivu. Le M23 se retire de certaines entités du Sud Kivu. Est-ce la suite du processus qui a commencé il y a de cela quelques mois lorsque les États-Unis avaient demandé à ces rebelles de se retirer d'Uvira, ou c'est un nouveau processus?
Non, je voudrais d'abord préciser que les États-Unis d'Amérique n'ont jamais demandé aux rebelles de la M23 de se retirer. Par contre, les États-Unis ont demandé au Rwanda de retirer les RDF, c'est-à-dire les forces de défense du Rwanda qui opèrent en République démocratique du Congo.
Voilà, est-ce que c'est le même processus ou bien c'est un nouveau processus?
Nous, les gouvernements provinciaux du Sud Kivu, ayant suivi ces processus de retrait progressif dans les localités, comme j'ai tantôt parlé, de Kabunambo, Biriba, Luberizi, Mutarule, Sangé, Bouedira et aujourd'hui Luvungi, j'ai montré que nous, les gouvernements provinciaux du Sud Kivu, nous avions pris acte de ces retraits qui intervient, je dois le dire, dans un contexte d'intense pression diplomatique et militaire populaire, parce que jusque-là, notre population a continué à manifester sa résistance face à cette agression. Et si vous voyez très bien ce qui s'est passé dans la plaine de la Ruzizi, il y a lieu de se poser plusieurs questions. Nous avons constaté que les rebelles se retirent des sites moins importants quant à ce qui concerne la fourniture de moyens nécessaires pour soutenir la rébellion, afin de se concentrer sur des endroits où ils estiment pouvoir percevoir autant de moyens qui va leur permettre de continuer à violer le cessez-le-feu.
Docteur De José Kakisingi, vous êtes coordinateur du Conseil national des forums des ONG humanitaires et de développement de la RDC CONAFOD, en sigle, une plateforme qui regroupe plus de 500 ONG nationales étendues sur toute l'étendue du territoire national. Partant de l'expérience vécue à Uvira lors du retrait de ces rebelles, qu'est-ce que vous, de la société civile, vous avez à conseiller aussi bien au gouvernement provincial qu'à la population pour que ces retraits, n'est-ce pas, puissent apporter effectivement un climat de paix dans toutes les entités qui viennent d'être libérées?
La première chose d'abord, c'est que nous disons à notre armée, à notre gouvernement, c'est qu'ils doivent savoir que leur rôle, c'est de protéger toutes les communautés, aussi bien ceux qui étaient là sous l'occupation d'un M23 que ceux qui vont venir. Les civils ne sont pas des cibles, les civils sont des victimes. Donc la première chose, c'est de les protéger, de les rassurer et de travailler pour qu'il y ait une cohésion sociale et qu'il y ait une paix réelle. Donc si après on commence à faire la chasse à l'homme, ça va créer l'effet inverse à ce que la communauté voudrait voir. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est de préparer les meilleures conditions pour le retour des réfugiés qui sont soit dans les villages plus éloignés, soit dans le pays voisin qui est le Burundi, parce que tout le long de la rivière Ruzizi, il y a des réfugiés au départ du côté burundais. Il y en a qui sont dans les familles d'accueil, il y en a qui sont dans les camps un peu plus loin. Mais tout ce monde-là va être très pressé de rentrer chez eux pour pouvoir vivre normalement et retrouver leurs champs, leurs maisons, pouvoir envoyer leurs enfants à l'école et tout ça.
Merci Henri Pacifique Mayala. Vous êtes coordonnateur du baromètre sécuritaire du Kivu. Le fait que ces rebelles se soient retirés, pas du fait d'une pression militaire, mais plutôt par la pression diplomatique, quelles sont à votre avis les garanties, n'est-ce pas, que ces rebelles ne vont pas tenter de revenir dans ces différentes entités les jours où cette pression diplomatique pourrait baisser?
Ah ben c'est la bonne question.
C'est la bonne question à laquelle il faut réfléchir. Et je le redis encore, nous l'avons vu avec Lubero. Ils se sont retirés, mais ils sont tellement positionnés de telle sorte que, si je te donne par exemple le cas de Kipese, s'il faut dire en tout cas l'une des agglomérations la plus importante dans cette partie-là. Ils se sont retirés d'un côté pour stationner à Kitumbiro, ils se sont retirés de l'autre côté pour être à Lubango, mais ça ne représente que 20 kilomètres. Et donc aujourd'hui, la question persiste. Ils sont là, à Kamanyola, est-ce qu'ils continuent de garder un avantage stratégique ou tactique sur les FRDC? La question demeure, parce qu'il faut toutes ces évaluations sur le pourquoi déjà Uvira est tombé comme ça, on va pas revenir sur comment Bukavu est tombé. Tout ça, ce sont les questions auxquelles je pense il faudrait un cadre adapté, idéal pour ce type de discussion.
C'est par ici que nous mettons un point final à ce journal coordonné et supervisé par Lievin Mbwinga-Vubu et mis en onde par Pierre Diassinois. Ce journal est à réécouter sur notre site internet www.radiocapi.net.